When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vous avez du mal à vous vendre sur Internet? Bonjour, 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 bonjour. C'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative. Épisode 630. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous et que vous avez envie de créer du contenu. Bah, vous savez que je suis là pour vous aider. Aujourd'hui, oui, épisode 630. Oh là là, j'ai du mal à me dire qu'on est épisode 630, mais bon, c'est vrai, c'est la réalité des choses. En créant du contenu au départ, quotidiennement, hein, en démarrant le podcast en mode quotidien et en le faisant pendant des dizaines et des dizaines de jours, et ben c'est vrai que j'ai fait monter les compteurs très vite. Alors maintenant, bien sûr, nous sommes en hebdo, hein, on se retrouve toutes les semaines, tous les vendredis, mais c'est vrai que le fait d'avoir commencé à créer ce podcast en quotidien et d'avoir pris cette habitude de créer en quotidien m'a donné en fait un grand nombre d'épisodes, une belle expérience. En quelques années, en fait, j'ai pris une expérience qui est vraiment incroyable, parce que quand on regarde des podcasts qui ont 600 épisodes, à part ceux qui font du quotidien, ben, ce sont des podcasts qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, hein, qui sont très vieux. Et finalement, j'ai parfois du mal à me dire que ça fait que 4 ans et demi que je fais ce podcast. Pourquoi que, finalement? Parce que dans ma vie, moi qui ai 45 ans, bah 4 ans et demi, finalement, c'est pas grand-chose, hein, c'est un petit bout de ma vie, on va dire 10%. Mais j'ai l'impression, finalement, que c'est vraiment mon truc. Hein, mon truc, voilà, c'est mon truc. Faire du podcast, c'est vous parler dans un micro, c'est mon truc. De même que courir aussi, c'est mon truc. Et ça m'amène au sujet qu'on va aborder aujourd'hui sur cet aspect, en fait, de... comment on se vend et comment on évite de tomber dans un travers de trop vouloir se vendre et de trop se vendre. Vraiment, c'est un aspect qui est vraiment très important. Bon, vous savez que je vous raconte là ma vie créative, hein, dans ce podcast. Je crée du contenu, des podcasts, des vidéos, comment j'utilise les réseaux sociaux, tout ça je vous raconte. En fait, il y a plein d'outils. Marketing, storytelling, comment est-ce que finalement on va utiliser la communication pour créer la vie telle qu'on veut la vivre. Hein, c'est vraiment mon truc, c'est de dire que moi j'ai envie de créer ma vie, j'ai envie de créer une vie qui me plaît vraiment, un truc comme ça, quoi. C'est-à-dire que l'autre jour, il y avait une discussion, quelqu'un finalement m'a fini par me dire, oui, mais toi, tu vis, tu fais un truc qui te plaît. Bah ouais, je fais un truc qui me plaît. Et oh, vous avez pas envie de faire un truc qui vous plaît? Moi, je fais un truc qui me plaît. Pendant des années, en fait, j'étais dans cette, j'ai grandi, vous savez, dans cette logique-là de dire, il faut très bien travailler à l'école, et puis après, il faut faire des études, et puis après les études, il faut avoir un bon boulot, etc. Avoir un boulot stable. Ah là, moi, le mythe dans ma famille, c'est le boulot stable. Être fonctionnaire ou travailler dans une grande entreprise. Alors moi, je suis à Clermont-Ferrand. Alors la grande entreprise, c'est Michelin. Mon père est travaillé chez Michelin. Ma mère est travaillée dans la sécurité sociale. Donc autant vous dire que d'un côté, il y a le côté sécurité de la grande entreprise et de l'autre côté, il y a la sécurité de assimiler fonctionnaire. Alors, bien sûr, on me dira non, j'étais pas fonctionnaire, mais ça reste quand même quelque chose qui est assimilé fonctionnaire. Et donc, quelque part, à un moment donné, le parcours qui m'était tracé, c'était de dire, bah écoute, pour travailler dans des grandes entreprises, alors ça peut être Michelin, ça peut être des banques, ça peut être des choses comme ça, ou alors pourquoi tu serais pas fonctionnaire? Pourquoi tu serais pas, travaillerais pas aussi enseignant, des choses comme ça? Et en fait, j'ai essayé de me plier à ça pendant longtemps. J'ai essayé de me plier, de rentrer là-dedans, parce que, en fait, ces injonctions qu'on entend pendant toute sa vie, bah, finalement, enfant, on finit par rentrer dans ce moule. Et puis, au bout d'un moment, j'ai fini par faire exploser ça, parce que ce truc-là, en fait, bah, était en train de me tuer. Mais était en train de me tuer. Il y a 11 ans, enfin, il y a 10 ans, mais il y a 11 ans, vous voyez, on va dire, ça fait 10 ans et demi que j'ai quitté le salariat. Mais il y a 11 ans, en fait, dans ces périodes-là, j'étais en arrêt de travail. J'étais en arrêt de travail, j'étais harcelé au boulot, j'avais tenté de travailler dans une collectivité locale, vous voyez, le mythe fonctionnaire qui finit par rattraper, hein, tout, et j'étais dans une collectivité locale, et ça se passait tellement mal qu'un jour le médecin m'a dit, non, là vous pouvez pas aller travailler aujourd'hui, c'est pas possible, je tremblais dans tous les sens, etc., j'étais sous antidépresseur, je pouvais pas y retourner, et en fait, vous savez, là c'est l'approche des vacances de Noël, bien sûr, Noël c'est dans une semaine. Et à l'époque, c'était la fin de mon congé de mon arrêt de travail et je reprenais le travail juste le 4 ou le 5 janvier en fait. Et je commençais déjà à sentir la pression qui remontait, à me dire après 2 mois d'arrêt de travail, je vais devoir y retourner, comment ça va se passer, etc. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué vraiment fortement et que, bah, en fait. ce que je veux dire, c'est que ça m'a tellement marqué que ça a fondé en fait mon esprit de dire il y a des trucs vraiment, on n'est pas là pour supporter ça quoi. On n'est pas là pour supporter ça. Et je vous dis pas de donner votre démission. Hein, je vous dis pas post-adem, etc. Et puis casse-toi. Mon neveu l'a fait. Enfin, mon neveu, il fait le tour du monde en ce moment. Et c'est un gamin, il a 25-26 ans. Il a travaillé pendant quelques mois. Et puis au bout d'un mois, il a dit, bah maintenant, je vais partir faire le tour du monde. Et il s'est cassé, quoi. Il est parti faire le tour du monde. Mais moi, je peux pas faire ça. Moi, avec ma femme, on a une maison, on a une petite fille. Ma petite fille, tout à l'heure, je vais l'amener à l'école, etc. Donc moi, je peux pas poser ma démission, dire on va partir au bout du monde, même si certains le font. Mais moi, j'ai pas envie de faire ça. Moi, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de créer du contenu, de courir, de vous aider à créer du contenu, de vous aider à courir, de vous aider à finalement sortir de cette roue là de hamster dont je parle assez souvent dans Kilomètre 42, mais qui s'applique aussi à ce que nous faisons au quotidien. Et parce qu'en fait, on est pris dans ce truc-là, des injonctions que nous avons eues. Puis une fois qu'on a commencé à lancer la roue et qu'on s'est installé dans le quotidien avec l'argent, du salaire, etc., c'est très difficile d'en sortir. Et donc, c'est un peu l'esprit de ce podcast. Alors, cette intro, elle est un petit peu longue, mais en fait, elle m'amène à une question qui m'a été posée sur le Patreon. Et vous savez que vous pouvez me soutenir par le biais de Patreon. Vous faites patreon.com/BertrandSoulier. Et dessus, vous avez des explications, alors que je dois changer un petit peu, hein, je vais vous le dire vraiment un petit peu sur le concept, parce que ma marque est en train d'évoluer beaucoup. Mais en fait, qu'est-ce qui m'a été dit? En fait, c'est une personne qui me dit qu'on lui a fait un reproche, que en fait, sa communication sur les réseaux sociaux est merdique. Et là, je trouve que c'est raide. Et notamment qu'il est trop vendeur et pas assez dans le partage. Et donc, il se demande comment faire le minimum et trouver le juste milieu pour ne pas abîmer sa marque personnelle. Quelle dose de partage, de repartage, de demande de coup de main, d'interaction, etc. Alors, je voudrais essayer de répondre simplement à cette question, mais comme il y a plusieurs dimensions à ce problème, je ne suis pas certain d'arriver à faire une réponse si simple que ça. En tout cas, aussi simple que celle que tu voudrais entendre. Le problème, c'est ça, en fait. Parce que ce n'est pas une question qui est simple, mais c'est une posture, en fait. C'est un état d'esprit. Déjà, en préambule, je voudrais reprendre une idée qui est développée par Pierre Dron dans son livre Remarquable. Vous savez, j'ai fait un épisode avec Pierre Dron il y a quelques semaines. Son livre est vraiment remarquable. Son livre, c'est « Comment réussir en créant une marque unique, durable et rentable ». Et c'est vraiment un livre remarquable. Fait partie des livres que j'ai lus le plus rapidement, dans lequel j'ai pris le plus de notes, hein, dans mon second cerveau. Si je prenais le nombre de citations, de highlights, comme on appelle ça là. C'est comme ça qu'ils me l'appellent en fait, parce que je vous donne un peu la coulisse, les coulisses des trucs. C'est en fait, je lis ça sur Kindle, et mon Kindle en fait se synchronise avec mon Obsidian par bien un système qui en fait va compter le nombre de surlignages que je fais dans le livre. Du style, il va me dire, dans ce livre, vous avez surligné 300 passages, 168, 200, etc. Bon, Remarquable fait partie des livres où j'ai le plus surligné de passages. Et en fait, j'ai surligné un passage en fait où il dit, nous sommes responsables de notre image en fait. Nous sommes responsables vraiment de la perception que les autres ont de nous, et nous sommes responsables de l'impact que nous avons sur les autres. Et donc, même si la remarque a fait du mal à entendre, il est important de l'entendre. Car si des personnes ont ce ressenti, c'est que ça vient de ce que nous faisons, en fait. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui ose le dire, et en fait, la personne, elle te le dit parce que elle t'apprécie, elle t'aime bien, elle a envie de progresser, elle a envie de t'aider, en fait. Il y a plein de gens qui pensent la même chose, qui ne le disent pas. Et la plupart des gens, quand ils vous le disent pas, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils se désabonnent. En fait, ils partent comme ça, ils vous désabonnent. Alors, il y a ceux qui clashent un petit peu, et on parle beaucoup, par exemple, de ceux qui mettent des commentaires négatifs, etc. Mais j'ai envie de dire que celui qui prend du temps pour dire, franchement, ce que tu fais, c'est merdique, il a pris du temps, en fait. Il a pris du temps. C'est-à-dire qu'au lieu de juste partir en disant, ouais, lui me fait chier, je m'en vais. Pardon pour le mot, j'ai trop obligé de cocher la case, comme quoi il y a du contenu qu'on peut pas écouter. Désolé pour ceux qui sont en train de mener leurs enfants à l'école et qui ont ce mot-là. Pardon les enfants. Mais ce que je veux dire en fait, c'est que déjà il a pris du temps pour le faire, pour le dire, etc. Et ça déjà, je pense que tu peux lui dire merci. Voilà, je sais, c'est raide, hein, ça nous froisse un petit peu, on se sent tout froissé, on est comme une boule de papier là qu'on vient de froisser là, des cric 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 comme ça. Mais je pense que déjà c'est important de l'entendre et de se dire que c'est un peu comme un porte-parole en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui le pensent et qui le disent pas. Et puis il y a bien sûr les gens qui, en voyant les contenus quand on fait ça, quand ils ont ce sentiment de la dire, oh mais lui il a qu'un truc à me vendre, il vend que de la soupe, ne vont même pas s'abonner, ne vont même pas suivre notre compte Instagram, ne vont même pas essayer de suivre la suite de l'histoire en fait. Parce que dès le début ils disent, Ouais, attends, j'ai vu trois contenus, il fait que vendre sa soupe, son Patreon, etc. Et moi, je m'en vais. Donc, déjà, c'est un point important. Ensuite, le mot trop vendeur. Ça veut dire quoi, cette histoire-là? Ben, ça, en fait, c'est un travers dans lequel nous pouvons tous tomber. En fait, on peut tous tomber dans le truc d'être trop vendeur parce que nous avons déjà tous un truc à vendre. En fait, soit au premier sens du terme, bonjour, j'ai un livre à vendre, j'ai une formation, je pourrais vous dire bonjour, aujourd'hui j'ai un programme à vendre, préparez votre année 2022, planifiez votre année 2022, le lien dans les notes d'épisode et ça vous coûtera que 30 euros ou 40 euros en ce moment, enfin c'est plutôt 40 euros d'ailleurs. Ça, je pourrais vous le dire, pour vous faire une belle page de vente, etc. Elle existe, hein, vous avez le lien dans les notes d'épisode. Donc ça, c'est j'ai un truc à vous vendre. Comme j'avais un livre à vous vendre, etc. Soit au sens d'un contenu à promouvoir. Bonjour, je viens de faire un épisode de podcast. Tiens, j'ai un compte Instagram, j'ai un compte Twitter. Tiens, je viens de mettre ça, etc. J'ai un Patreon, j'ai un projet à soutenir, etc. Enfin voilà, on a toujours un truc à vendre. Toujours un truc à vendre. Et c'est normal, c'est normal. Je vous ai parlé de mon Patreon, je vous ai parlé d'une formation, je peux vous parler de du livre que je vais écrire, je peux vous parler de plein de choses. À chaque fois, j'ai un truc à vous vendre. Et c'est normal de le faire. Parce que en fait... Qu'est-ce qui se passe? Nous avons besoin de vendre. Vendre, c'est ce qui nous permet de poursuivre notre projet, de réaliser notre rêve. Je vous parle en fait de, il y a 10 ans, j'étais dans le salariat, j'avais envie de le quitter parce que ça me faisait, c'était en train de me détruire, etc. Pour que ça continue, il faut que je vende quelque chose. Il faut que je vende. Alors moi, je vends quoi? Des coachings, je vends des livres, des formations, je vends de la publicité sur mes podcasts. Mais si je ne vends pas quelque chose, tout s'arrête. Et je retourne dans la machine, j'ai envie de dire. Donc, on a tous quelque chose à vendre. À un moment donné, c'est que, en plus, quand on se dit, je quitte la machine, je m'évade de la machine, quand on est évadé de la machine, hein, et quand on veut vraiment s'évader de la machine, il y a un moment donné, il faut trouver comment on gagne de l'argent. Alors, bien sûr, au début, on peut se dire, j'ai Pôle emploi qui va m'aider, j'ai des soutiens, j'ai de l'économie, j'ai ça. Mais il y a un moment donné, il faut vendre quelque chose. Il faut arriver à trouver quelque chose qui va remplacer ça, qui va nous donner de moyens de vivre vraiment de ça. Moi, je le dis, par exemple, dans le podcast, c'est un chiffre que je peux vous donner. Là, j'ai fait une facture sur la publicité hier, donc j'étais assez content. Cette semaine, j'avais 2-3 factures sur la publicité à faire. Quand il y a une facture de plusieurs centaines d'euros pour de la publicité qui est vendue sur un des podcasts, ça fait plaisir. On se dit, ça, je peux continuer 1 mois de plus, 2 mois de plus, 3 mois de plus, je peux continuer. Ça permet de faire des choses, ça permet de construire des choses, ça permet d'imaginer des choses, ça permet d'acheter un nouveau micro, ça permet de payer le matériel, ça permet de dire, je peux acheter une formation pour progresser. La semaine dernière, je vous parlais de la formation de Casinestat. Formation de Casinestat, je peux vous garantir, je peux vous dire aujourd'hui, je vais appuyer sur le bouton acheter parce que, du fait que publicité a fait ça, que ça et ça, tout, ça me fera mon petit cadeau de Noël que je me fais à moi-même en tant que créateur de contenu. Pour arriver à faire ça, il a fallu que je vende quelque chose. Il faut que j'arrive à vendre quelque chose, que j'imagine des choses, que je les vende, etc. Donc, c'est normal. Sauf que vous, là, ce matin, là, quand vous êtes connecté au podcast, vous n'avez pas envie de m'acheter quelque chose. Vous n'êtes pas levé pour m'acheter quelque chose. Alors, bien sûr, on est dans une période, on a une semaine de Noël, et on se dit, dans une semaine, qu'est-ce que je vais amener au réveillon comme cadeau? Qu'est-ce que je vais mettre sous le sapin le 25, etc. Donc là, oui, bien sûr, en ce moment, on se lève un petit peu en se disant, faudrait bien que j'achète un truc aujourd'hui pour ma famille, pour ma femme, pour mon mari, pour ma maîtresse, pour mes conjoints, mes enfants, pour plein de gens. Je vous dis pas qu'il faut avoir une maîtresse ou quoi que ce soit. Je vous donne un exemple. Mais, en dehors de ce temps-là, on se lève pas le matin en se disant, aujourd'hui, je dois acheter quelque chose. Et pourtant, on passe des journées à acheter des choses. On passe des journées à acheter des choses, mais on se dit pas tous les matins, je vais acheter quelque chose. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, quand on est dans cette position de dire j'ai un truc à vendre, etc., on froisse un peu les gens en fait. On froisse un peu les gens. Si ce matin je faisais un épisode de podcast, bonjour c'est Bertrand, aujourd'hui je vais vous vendre ma formation, tatatac, et je vous fais un plan de vente comme ça, normalement au bout de 2 minutes vous êtes parti. Bon, là, si vous êtes encore là, ça fait 13 minutes qu'on parle, je suis en train de vous expliquer en fait les coulisses un peu de l'état d'esprit, comment on peut progresser, etc. Je m'ouvre à cœur ouvert un petit peu aussi sur certains sentiments que je peux avoir. Et ce matin, quand vous avez démarré le podcast, vous n'avez pas fait, ce matin, parce que moi j'enregistre le matin, donc je considère que vous l'écoutez le matin en promenant votre chien, ça c'est ma manière à moi de vous voir en tant que personne, vous n'êtes pas levé en disant « aujourd'hui j'achète du Bertrand ». Vous n'êtes pas levé en disant « aujourd'hui, je prends ma carte bleue, j'achète du Bertrand, dans le podcast, il me vend un truc, je l'achète ». Non, Vous n'êtes pas dit ça. Aujourd'hui, vous êtes dit, je vais apprendre un truc, j'ai envie d'avoir des informations, j'ai envie de progresser à ma création de contenu, j'ai besoin d'être un peu énergisé, j'ai besoin d'avoir des conseils. Tiens, il va parler de vente, etc. Ça m'intéresse parce que moi, j'ose pas trop vendre, etc. Qu'est-ce qu'il va me raconter? Vous voyez, toute l'histoire que je viens de vous raconter aussi, là, sur le fait qu'on a besoin de vendre, etc. C'était pas évident pour moi il y a 4 ans quand j'ai commencé le podcast. Pendant longtemps, je vous ai rien vendu, mais j'avais rien à vendre. Je n'imaginais aucun produit, j'osais pas lancer ma formation, j'osais rien faire, etc. Donc, je n'arrivais pas à vendre, je savais pas comment le faire. Et donc, petit à petit, j'ai appris, je vous raconte ça. Et en fait, ce podcast, c'est aussi l'histoire de, je vous raconte ça, c'est les progrès de ce que j'essaye de faire, comment j'essaye de le faire, comment j'ai, il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas, et comment je le fais. Et ça, c'est un élément qui est important, parce qu'en fait, quand on se connecte sur un podcast, quand on se connecte sur un compte Instagram, sur une vidéo, quoi que ce soit, on n'est pas là pour acheter un truc, on est là pour avoir de l'information, apprendre des choses, progresser, avoir de la motivation, de l'inspiration. Et là, nous, en tant que créateurs de contenu, c'est important de se mettre dans l'état d'esprit de ça. Les gens, par exemple, je prends souvent l'exemple de la domotique. Imaginez, vous avez une chaîne de domotique. Vous savez, une domotique, par exemple, c'est comment je pilote ma maison avec, je dis, ok Google, allume la lumière. Bon, ce truc-là. Bah, vous faites une chaîne YouTube sur ce sujet-là. Hein? Et bon, ça marche très bien, ces choses-là. La personne, quand elle se connecte sur votre chaîne YouTube, elle ne veut pas avoir le truc qui l'intéresse, c'est comment vous avez dit à votre Google, d'allumer la lumière, quel matériel vous avez acheté, comment vous avez fait, comment vous avez configuré, etc., de résoudre des problèmes que vous avez. Et peut-être que la réponse que vous allez apporter peut passer par un truc que vous avez à vendre. Mais il vient pas pour ça, en fait. Il vient pas pour ça. Il vient pour résoudre son problème, la personne qui vient consulter votre truc. Et c'est valable aussi dans le sport, c'est valable dans plein de choses. En fait, les personnes, quand elles consultent nos contenus, elles ne sont pas là pour nous acheter quelque chose, elles sont là pour résoudre un problème qu'elles ont dans leur tête. Ce problème, c'est soit elles s'ennuient, soit elles ont envie d'avoir de la motivation, soit elles ont envie d'avoir de l'inspiration, soit elles ont envie de progresser dans leur métier, dans leur passion, dans leur hobby, etc., quelque chose qui les passionne. Soit, après, vous savez, j'avais parlé des life force, hein, les forces de vie, les sujets qui nous préoccupent le plus. Avoir quelqu'un avec qui partager notre vie, le sexe, l'argent, les enfants, se reproduire, gagner de l'argent, avoir suffisamment de quoi manger, etc. Enfin, vous voyez, ces grandes forces, etc. Avoir des relations sociales et autres. Enfin, c'est ce qui nous anime, en fait, grosso modo. Mais, quelque part, on est tous là-dedans. On est tous dans la charge de là-dedans. Et parfois, ça passe par des contenus gratuits. Parfois, ça doit passer par des contenus payants, etc. Et maintenant, je vais aussi prendre ma casquette préparation mentale, parce que là, je suis en pleine certification dans la préparation mentale. Je vais prendre ma casquette préparation mentale, et une question qui se pose quand même, c'est que quand on est trop dans la vente comme ça, on est presque dans une suraffirmation qui vient souvent du manque de confiance, qui va te dire, je n'ai pas confiance dans le fait que les gens vont m'acheter un truc, alors j'en parle tout le temps, car à force de leur en parler, ils vont bien m'acheter un truc. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un peu la tactique du gamin. Vous savez, ma fille, à 4 ans, quand elle a envie de chocolat, elle va me demander 50 fois du chocolat. L'autre jour, on était allé au supermarché. Oh là 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 là. Quand on est passé devant un rayon chocolat. Je veux du chocolat, je veux ça, je veux ça. Et puis après, on passe au rayon serre-tête. Ouais, je veux un serre-tête, je veux un serre-tête, je veux un serre-tête. On passe au rayon peluche. Mais je veux cette peluche, je n'ai pas cette peluche. Et elle a 50 peluches sur son lit. Mais je veux cette peluche-là. Tu l'as déjà. Mais non, bah si, tu sais pas où elle est, mais tu as déjà à peu près la même, elle lui ressemble. En plus, parce qu'ils sont malins dans le marketing, ils ont fait des peluches, je sais pas comment ça s'appelle, et elles se ressemblent toutes, c'est juste qu'il y en a un qui a les cheveux verts, les bleus, les petites oreilles, elles sont pas dit, hop, alors, voilà. Et puis ils vendent ça 10 balles, et puis voilà. Bon, bref, vous avez compris le truc. Donc, en fait, ça c'est la technique un peu de l'enfant, vous voyez, moi j'ai envie de dire que c'est, je veux ça, achète-moi ça. Mais bon, ça c'est une tactique qui marche bien quand on est enfant, mais si moi je vous parle comme ça, et je vous fais un épisode comme ça, comme vous l'écoutez jamais, c'est pas possible, parce que ça marche pas bien ce truc-là. Et en fait, quand on veut vendre un truc et qu'on n'a pas confiance dans le fait que, un, on est légitime pour le vendre, parce qu'on n'a pas confiance dans le fait que ça va intéresser les gens, etc. Ils vont dire, mais pourquoi ils me donneraient de l'argent sur mon Patreon? Hein, finalement, ce que je fais, ça sert à rien, c'est nul, c'est mon truc à moi, pourquoi est-ce qu'ils feraient ça, etc. Eh ben, on a une tendance à en surparler parce qu'on se dit, si j'en parle pas, ils vont jamais m'acheter. Et donc, en fait, le problème dans l'histoire, c'est que, en fait, on se met à survendre quelque chose d'une manière qui n'est pas naturelle. Donc, on en parle mal, on le fait mal, et ça marche pas. Hein, c'est pas parce qu'on en parle tout le temps que les gens vont nous l'acheter. En fait, ils vont l'acheter pour une autre raison. Et je ne sais pas combien de fois je l'ai constaté, mais encore cette semaine, je le constate. Il y a des trucs que j'essaye de vendre, que ça marche pas. et il y a des trucs que je ne sais pas de vendre et que j'arrive à vendre en même temps. Des trucs qu'ils vendent au quotidien, là. Ce matin, là, juste avant d'enregistrer, j'ai regardé, j'avais une notification. Tiens, quelqu'un m'a acheté, hop, une petite formation de ça, un petit truc là-dessus, etc. Pourtant, j'ai pas fait le moindre mail de vente sur ce sujet-là. C'est sur mon site, c'est placé sur mon site, etc. C'est peut-être un peu mis en valeur, etc., en avant. Mais je n'avais pas un truc à vendre. Je l'ai pas, c'est pas ça que j'ai vendu en tant que tel. Mais c'est ce truc-là qui a parlé aux gens, en fait. Voilà. Et donc, bien sûr, il faut dire qu'on a un truc à vendre. Bien sûr. Parce que si on ne dit pas aux gens qu'on a un truc à vendre, ils vont jamais nous l'acheter. C'est naturel. Si je vous dis pas que j'ai une formation, comment vous savez que vous pouvez m'acheter ma formation? Si je vous dis pas que j'ai acheté, que j'avais, quand j'ai fait mon livre, quand j'ai publié mon livre, si je vous ai pas dit que j'avais un livre en vente sur Amazon, vous seriez jamais allé l'acheter sur Amazon parce que vous en connaissez pas l'existence. Ça, c'est logique. Mais comment on fait finalement pour ne pas tomber dans ce survente, dans ce truc de dire faut que je parle constamment de comment je vends, comment je fais les choses, etc. Et c'est là, en fait, le cœur de l'épisode. C'est que, je vais revenir sur ce que disait Pierre Dron, en fait, dans son livre, il propose une posture, et que je trouve très intéressante, c'est imaginer que nos clients sont nos amis, notre tribu, ce sont nos amis, en fait. Nos fameux super fans, en fait, ce sont nos amis. Et c'est la réalité, en fait. Ce sont nos amis. Vous êtes mes amis. Ah, voilà. Vous écoutez ce podcast, je vous considère comme des amis. Et en fait, il accompagne une posture, c'est le stop selling et start telling. Arrêtez de vouloir vendre et raconter plutôt nos histoires. Pourquoi c'est important cette histoire de dire qu'on a des amis? Parce que quand vous avez des amis, vous ne passez pas votre temps à taper à leur porte et leur demander du pognon. Il y en a qui le font, et en général, ils n'ont plus beaucoup d'amis. C'est-à-dire que vous ne passez pas votre temps à dire, eh ben, écoute, salut, comment vas-tu? Ah ben tiens, t'as pas 100 balles? Non mais, est-ce que c'est ça la relation que vous avez avec vos amis? Non, c'est pas celle-là. Tiens, écoute, aujourd'hui, tu peux pas m'aider à porter cette machine à laver? Bien sûr, de temps en temps, vous avez besoin de ce coup de main, etc. Mais vous passez pas votre temps à faire ça. J'ai envie de dire un peu, ça ressemble, vous savez, au film Jean-Claude Duss et compagnie, où il y a toujours un truc, etc. Et puis il va se dire, bon, on sait pas, sur un malentendu, ça va finir par marcher, quoi. Non, au bout d'un moment, les gens, ils vous sentent venir. Si à chaque fois que vous tapez à la porte de quelqu'un, vous dites, hey, t'as pas 100 balles, à un moment donné, il va plus vous ouvrir la porte, j'ai envie de dire. Il va tout faire pour... il va vous ghoster, il va faire tout ce que vous voulez, il va jamais vous ouvrir la porte. Donc, déjà, au départ, même si c'était déjà un ami, il va vous dire « Oh, eh oh, attends, tu me gonfles », voilà, et donc il va vous ghoster ou je sais pas quoi. Et si c'est quelqu'un que vous croisez pour la première fois, il dit « Hey, t'as pas 100 balles ?» Vous savez, quelqu'un dans la rue qui vous demande « T'as pas 100 balles ?» Vous n'avez pas lui donner 100 balles. C'est pas possible, ça ne fonctionne pas comme ça. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Donc, finalement, l'histoire... c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut bien faire, etc. Eh ben, on va reprendre cette posture d'ami et se poser la question, finalement, de se dire, qu'est-ce qu'on fait avec des amis? Qu'est-ce qu'on fait si on leur demande pas de nous acheter un truc? Comment on fait? Ben, en fait, on se rend compte de quelque chose, c'est que la plupart du temps, quand on a quelque chose à qu'on fait comme ça, nos amis, quand ils le voient et qu'ils trouvent que c'est bien, qu'ils nous aiment bien, etc., eh bien, ils vont l'acheter naturellement. Ils vont naturellement, alors du moment qu'ils savent que ça existe, ils vont l'acheter. Ils disent « Ah ben oui, ça me fait plaisir de te acheter ça, de t'aider à faire ça, etc. Ah ben tiens, t'as un projet là-dedans, oui, je veux bien le financer un petit peu, t'aider à te donner un petit coup de main, etc. » Ils vont le faire totalement naturellement. Et ça, c'est un truc qui est totalement différent. Et ça vient de quoi? Eh ben ça vient qu'en fait, au lieu de leur demander de nous acheter un truc, ben on va arrêter d'essayer de vendre un truc et on va commencer à leur raconter ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'avec nos amis, en fait, qu'est-ce que vous faites avec vos amis? Eh ben, vous passez un coup de fil, vous leur dialoguez, vous allez les voir, vous allez boire un coup, vous prenez le temps de discuter, vous passez un coup de fil, vous voyez des petits messages, vous faites des zooms, vous demandez comment ça va, etc., vous échangez. Qu'est-ce que vous faites avec les amis? Vous parlez de ce que vous faites, j'ai monté un petit truc, aujourd'hui je suis crevé, j'en ai marre et tout, c'est pénible, etc., mon gamin il me tape sur le système, tu m'aurais pas une bonne blague à me raconter, enfin, vous voyez, c'est ça les amis, j'ai envie de dire, on parle de nos émotions, on va leur demander aussi comment ils vont, alors et tout, comment ça va tes parents, tu me disais que ça allait pas très bien, etc., vous voyez, c'est ça en fait les amis. Alors bien sûr, là, moi je peux pas vous demander, bon, ça va bien vos enfants et tout, bien sûr, mais bien sûr que je vous pose la question, bien sûr que j'y pense, parce que moi, par exemple, il y a 15 jours, je fais une vidéo un matin en disant, punaise, être entrepreneur et papa, c'est super galère, parce qu'il y a des fois quand ma fille, elle s'énerve dès le matin, ça me fout le moral à zéro, et j'ai l'impression d'être le seul au monde, alors qu'en fait, on est plein des papas entrepreneurs à qui ça arrive, et personne n'en parle, parce que c'est tabou, déjà dans les films, les gamins, ils sont toujours... À part dans Papa, j'ai raté l'avion là, où Macaulay Culkin, il est Bon, pour défendre la maison, c'est un sale gosse, mais c'est un sale gosse tout le temps, mais qui finalement devient le héros, parce que ce côté sale gosse lui permet de défendre la baraque, passe au cambrioleur. Mais j'ai envie de dire, personne n'a envie de dire que nos gamins, ils hurlent, qu'ils crient, qu'ils nous demandent des trucs, etc. Et ça fait du bien quand quelqu'un nous pose la question. Mais moi, je peux pas le faire parce que vous n'avez pas tous me répondre. Mais si vous avez envie de m'en parler, vous pouvez m'en parler. Dire, bah tiens, parce que c'est un sujet que j'ai abordé il y a pas très longtemps. Comment tu fais, toi, Bertrand, pour te concentrer, pour arriver à travailler quand tes gamins t'ont tapé sur le système, enfin quand ta fille a s'énervé le matin, t'a tapé sur le système le matin parce que elle voulait pas s'habiller, que vous êtes arrivé en retard à l'école, que ça t'a mis en retard pour tes rendez-vous, etc. Comment tu fais? Ah, ce qu'on appellerait la crise, comment on gère la crise, comment on fait pour revenir du calme, etc. Bon, tout ça, on l'a, voilà. Tout ça, bien sûr qu'on peut en parler. Mais qu'est-ce que vous faites avec vos amis? Vous leur racontez des histoires? Qu'est-ce que vous avez fait la veille? Vous racontez l'histoire qui est arrivée à un ami commun, ce que vous faites avec vos enfants, l'histoire du film que vous avez pu voir, enfin toutes ces histoires-là. Et donc finalement, ben je reviens sur cette histoire, sur ces histoires. Et le cerveau humain, il adore qu'on lui raconte des histoires. Le neuroéconomiste américain Paul Gizak, en fait, il a montré que les histoires permettent au cerveau de produire deux types d'hormones, l'hormone du stress, le cortisol, et l'hormone de l'attachement, de l'amour, de l'empathie, du bien-être, etc. C'est l'ocytocine. Et donc, en fait, on aime qu'on nous raconte des histoires. On est bercé aux histoires. Hier soir, j'ai raconté une histoire à ma fille. Tous les soirs, je raconte des histoires à ma fille. Et à la sieste, etc., on lui raconte des histoires. Et en fait, je me rends compte aussi de quelque chose, c'est que tous mes contenus qui marchent le mieux, mes podcasts, mes épisodes qui marchent le mieux dans mes podcasts, ce sont ceux où il y a une histoire. La mienne, celle de mes invités, celle d'un projet. Et donc, la logique pour répondre à la question, c'est quoi? Ben, raconter des histoires. Raconter l'histoire, le pourquoi tu fais ça, le comment tu prépares les choses, comment, qui tu rencontres, de quoi tu as besoin, comment tu galères, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu n'as pas encore compris que tu n'arrives pas à faire, qu'est-ce que tu réussis, qu'est-ce que tu rates, comment tu progresses, quelle est ta vision du monde, en quoi ce projet te change, en quoi finalement ce projet est important pour toi, pourquoi tu fais ce truc-là. Et à un moment, ces histoires vont parler à des personnes qui vont se reconnaître, qui se projettent dans l'histoire, dans ton projet, ceux qui ont envie de faire la même chose, ceux qui aimeraient faire la même chose, mais qui n'osent pas. Parce qu'ils disent, oh, punaise, mais j'aimerais bien faire ce que tu fais. Et à un bout d'un moment, en fait, ben, ça, il y a quelque chose qui va se faire. Il y a une magie qui va se faire. Tu n'as pas besoin de faire des grands discours pour le faire. Tu peux montrer quelques photos, quelques éléments, quelques petits messages qui vont l'expliquer. Pas besoin de faire des grands débats, pas besoin de faire des vidéos qui font 3, 4, 5 minutes pour expliquer que tu allais faire telle ou telle chose. Tu peux juste faire une photo ou quoi que ce soit. Et ça me fait penser à quelqu'un que je suis depuis quelques temps qui s'appelle Alistair Humphreys, qui est un anglais, qui est un aventurier, le grand défenseur de la micro-aventure. Il a même été récompensé par le National Geographic dans les explorateurs de l'année, etc. C'est quelqu'un qui est très inspirant. Alors bien sûr, il a des trucs à vendre, des livres, des conférences, mettre en avant ses sponsors. Et il le fait parce que son truc à lui, en fait, c'est de faire des micro-aventures, des plus grosses aventures, etc. Et en fait, ben, il a besoin d'argent pour faire ça. C'est-à-dire que pour être aventurier professionnel, j'ai envie de dire, il faut soit des sponsors, soit il vend du temps des conférences, soit il pourrait vendre du coaching, mais il le fait pas, mais il vend des livres, il a fait 13 bouquins. Et en fait, qu'est-ce qu'il raconte? Ben, il raconte la grande histoire, celle du prof qui veut partir à l'aventure, qui démissionne. Les petites, celles du quotidien, les coulisses, une photo d'une carte pour dire qu'il réfléchit à un projet. Il pose une carte sur son compte Instagram, il dit, bah voilà, c'est la carte autour de la maison. C'est comment je vais partir sur 3 heures, faire une petite aventure et comment je vais monter dans un arbre. Bon, ben il raconte ça. Il raconte aussi ses routines pour préparer ses livres, ses aventures. Il partage ses valeurs. Il montre à quel point ce concept de partir en micro-aventure, ce qu'il appelle le 5-9. Vous avez le 9-5, c'est de travailler. Et le 5-9, c'est de partir à l'aventure. À quel point c'est son truc à lui, à quel point c'est ce qui le fait vibrer. Et la magie des choses, c'est qu'au fur et à mesure, il a agrégé autour de lui ceux qui veulent faire la même chose. Ceux qui l'inspirent, ceux qui vont acheter ses livres pour le soutenir. Moi, lui payer un café par une plateforme type Buy Me a Coffee ou je sais pas quoi. Lui, c'est coffee.com. Des plateformes de dons, ça pourrait être du Patreon. Ceux qui vont lui demander des conseils, ceux qui vont lui des messages. Moi, j'ai acheté 2 de ses bouquins, j'ai acheté ses cahiers d'exercices, j'ai acheté des trucs comme ça, etc. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? Bah, il inspire, on a envie de faire la même chose, etc. On a envie de faire la même chose. Et là, finalement, ça évite de se poser une question. Parce que quand il fait ça, en fait, il ne dit pas sans arrêt, j'ai un truc à vendre, un truc. Pendant tout le temps, en fait, il dit, je suis en train d'écrire un bouquin, je suis en train de préparer une aventure, je suis en train de faire ça, etc. Et en fait, il raconte son quotidien, il raconte ses aventures, il montre des photos de ce qu'il fait, il montre ce qu'il prépare, il est en train de parler de tout ça. Et il est dans le récit, il raconte des histoires, 80% du temps, il raconte des histoires de ce qu'il fait, comment il le fait, ce qu'il prépare, ce qu'il est en train de vendre, etc. Et il n'a pas la question de l'équilibre à faire, parce que l'équilibre, il va venir naturellement. C'est que quand il a fini d'écrire son bouquin, il va dire, bah voilà, le bouquin, ça fait 10 newsletters que je vous en parle, parce que ça fait 2 mois et demi que je travaille dessus, et ben il est prêt, vous pouvez l'acheter. Et ça devient tellement naturellement, cette histoire-là. tout à l'heure, moi je vous dis, voilà, je suis en train de préparer un bouquin, je suis en train d'écrire un bouquin, je sais même pas si je vous l'ai dit ou pas, ou en tout cas c'est un truc que je voulais vous dire. Quand je dis, je vais écrire un bouquin sur comment le podcast et la course à pied sont en train de me permettre de créer ma vie, d'être un peu un influenceur running, comment le gros hamster de 105 kilos devient un influenceur running sponsorisé par Nike et Adidas. C'est un truc qui est improbable comme histoire. Et je voudrais l'écrire dans un livre et comment j'ai fait et comment vous pouvez faire la même chose. Donc là, je vous raconte ça, je vous dis, bah voilà, je vais commencer à l'écrire, etc. Au fur et à mesure que je vous raconte que je suis en train de faire ça, il y a un moment donné où je vais arriver au moment où ça sera prêt et où ça sera naturel de vous dire, et au fait, ça y est, c'est prêt. Je vous en ai parlé depuis quelques temps, c'est prêt ce truc-là. Je vous ai montré un peu les coulisses, je vous ai envoyé un extrait, je vous en ai parlé, je vous ai posé des questions, etc. Et ben c'est prêt, voilà, c'est prêt. Bah écoutez, c'est dispo. Alors bien sûr, après je vais reparler, je vais le vendre, etc. Mais ça sera tellement naturellement que finalement ça devient facile, ça devient logique. Et ça devient un truc, finalement, que les gens pourraient acheter comme ils achètent un truc à un ami. Ah bah oui, tiens, ça y est, t'as sorti ton bouquin. Ah bah tiens, écoute, je vais bien te l'acheter pour voir un petit peu, pour te soutenir, pour t'aider, etc. Et parfois, en plus, la vente, elle vient du client lui-même. C'est-à-dire que lui-même, il a envie d'acheter naturellement ce que vous faites parce que vous l'avez inspiré, parce que vous l'avez aidé, parce que vous l'avez fait rire, parce que vous l'avez ému, etc. Les émotions, c'est tellement important. Et voici une petite histoire que je voulais vous raconter. Il y a quelques temps, j'ai reçu un message sur mon compte Instagram. Et la question qui a été posée, c'est est-ce que je fais du coaching? Et la personne me dit, toi, tu devrais vraiment faire du coaching. Est-ce que tu fais du coaching? Mais tu devrais faire du coaching, Bertrand. Et la question n'est pas posée sur mes mails où je parle de mes offres de coaching. Elle est posée sur mon Instagram où je parle de sport, de course, de préparation physique, de préparation mentale maintenant, etc. Donc, elle est vraiment dans mon univers course, sport, etc. Mon compte, Bertrand Soulier, qui est finalement le compte de ma vie de créateur de contenu dans le sport, etc., j'ai envie de dire. Et c'est vraiment un compte où j'explique, je parle de kilomètre 42, je parle du mental, devenir champion du monde de mon monde, je parle de tout ça. Et la question qui était, c'était donc, est-ce que tu peux m'aider à faire pareil que toi? Mais pareil que quoi? Que ce que je fais quoi? Ben courir, faire du sport, faire un marathon, peut-être faire des, faire du vélo, parce que je vais commencer à parler de vélo avec un nouveau podcast qui s'appelle Kilomètre 350, qui va être sur le vélo, sur le gravel. Vous pouvez faire bertrandsoulier.com/km350. Voilà, vous avez déjà le... Je vous donne le... Il n'y a que le trailer, la bande-annonce, mais ça va commencer là bientôt. Donc vous avez ça. Et en fait, la question, c'était de dire... La personne me dit, mais est-ce que je peux faire comme toi, finalement? C'est-à-dire, et c'était quoi le coaching qu'elle voulait? Ben, c'était comment je peux l'aider à courir, à faire une course, comment je peux l'aider aussi peut-être à se sentir mieux dans sa peau, peut-être à l'aider dans son idée à dire, bah tiens, moi aussi j'ai envie de me sentir bien en courant, mais est-ce que tu peux m'aider? Et puis la question après, je dis bah oui, mais comment je pourrais t'aider? Ben, elle me dit, bah voilà, j'arrive pas à courir, j'arrive pas à prendre les habitudes, qu'est-ce que tu peux me donner comme quoi? Et je lui donne un conseil, et là elle me dit, ah oui, tu devrais vraiment faire du coaching, parce que en quelques minutes, tu m'as débloqué un truc que ça faisait des mois que je n'arrive pas à faire. Et ben, le simple fait de faire ça, vous voyez, en fait, je peux gagner une cliente en coaching sur un truc au début que j'ai même pas prévu, enfin, j'ai pas prévu, dont je me sens même pas capable en me disant, est-ce que je peux vraiment aider les gens là-dessus? Oui, non, j'en sais rien. Mais le simple fait qu'il y ait quelqu'un, que je raconte ça et tout, il y a des gens, en fait, parce que moi, j'ai trouvé la solution pour courir tous les jours, parce que moi, j'ai trouvé la solution pour courir, pour faire un marathon, pour faire ça, pour faire tel ou tel truc, eh ben, il y a des gens qui disent, puisque moi j'ai trouvé la solution, je suis capable de leur expliquer la solution. Je suis capable de le faire. Et en fait, ce que je voudrais vous dire, pour finir sur cet épisode, c'est que ce qui est important, en fait, c'est que il faut raconter ce que vous faites, et petit à petit, il faut enseigner aux gens à faire la même chose que ce que vous faites. Et c'est découvrir au fur et à mesure les grands systèmes que vous avez mis en place, les grandes logiques de tout ce que vous faites, pour faire que ça devienne facile pour vous, et petit à petit, expliquer aux gens comment faire la même chose que vous. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, à force de montrer ce que vous faites, vous devenez un exemple, et les gens, en fait, ont envie de faire la même chose que vous, et vont vous demander à acheter ce que vous faites pour faire la même chose que vous. C'est vraiment la logique de tout ça. Et ça m'amène à une citation de Gandhi, qui dit « Montrer l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul ». Et c'est Gandhi qui le dit. Et si Gandhi le dit, bah franchement, faut l'écouter. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. En tout cas, c'était très, ça m'a fait beaucoup réfléchir cette histoire-là. Vous voyez, ça me permet de remettre beaucoup de contexte au-dessus. Mais je peux pas finir cet épisode sans manger une petite papillote. Nous sommes le 17 décembre, donc une semaine de Noël, etc. Vous savez, j'ai reçu mon troisième paquet de papillotes et je devrais être sponsorisé par Révillon parce que quand même. Et vous savez, dans les papillotes Révillon, il y a un chocolat et une citation. Ma fille appelait ça le petit papier. Elle m'a dit, papa, c'est quoi qu'il y a sur le petit papier? Alors, je vais essayer de vous lire la citation. Et alors. Voilà, ils ont mis une couleur qui est... Alors c'est... Là, par contre, il y a des papillotes, la couleur est illisible, le texte qu'ils ont mis. Vous savez, c'est doré sur du marron. Pour mes yeux, c'est pas très bon. Mais la citation vient de Alfred Capus. Voilà. L'homme aimable est celui qui écoute en souriant les choses qu'il sait, dites par quelqu'un qui les ignore. Oh, alors, l'homme aimable est celui qui écoute en souriant les choses qu'il sait, dites par quelqu'un qui les ignore. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Alfred Capus, je vous laisse méditer sur cette belle citation. Moi, je mange mon chocolat. Je vous souhaite une belle semaine de préparation des fêtes de Noël, etc. Je vous souhaite des belles préparations, de beaux préparatifs. Un peu de courage peut-être si vous devez faire beaucoup de magasins, etc. Et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous avez besoin d'un coup de main, si vous avez besoin d'un peu d'aide, etc. Vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode. Et donc, je vous souhaite à tous une belle semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.